ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Bernard Charlery. Bonjour, vous êtes professeur de géographie, ou vous l'avez été, et vous avez été aussi à l'UMR List de l'Université Toulouse Jean Jaurès à coordonner les travaux de dynamique rurale. Merci de me faire le plaisir de venir ici, de prendre un petit peu votre temps, parce que vous êtes toujours entre l'Amérique latine et l'Afrique, et... Même en étant à la retraite, vous continuez à réfléchir sur ces questions du développement rural, de la ruralité, de la modernité. Et je crois que bon, ce n'est pas pour vous flatter de dire que vous avez accompagné plus de 35 thèses et puis vous avez participé à nombreux colloques internationaux. Le thème, d'abord je voudrais, vous m'avez dit, est-ce que c'est la grande histoire, est-ce que c'est la géographie mondiale ou est-ce que c'est... mes convictions personnelles, alors il y aura un petit peu de tout ça, et je vous avais posé la question comme professeur d'université, dans vos travaux, quelles sont vos convictions? Est-ce qu'il y a une neutralité du chercheur? Et puis les rapports entre le chercheur, l'homme politique, le journaliste, ça fait une deuxième question, alors question de la laïcité, question de l'universel. On a mis sur le site de la radio le livre que vous avez coordonné, « Fruits des terroirs, fruits défendus ». Et puis, j'aime bien aussi la réflexion que vous aviez faite au moment où il y a eu le fameux, le triste discours de Dakar. Les Africains ne sont pas
dans l'histoire.
Entrés dans ouais. l'histoire. Donc, ça fait trois points. Ben, ça va coordonner, ça va diriger notre dialogue. Alors, tout petit... Bah, oui, vous étiez tombé dans l'eau bénite, non? Et puis ensuite, vous avez fait un peu de théologie et vous vous êtes orienté vers la géographie. Sens dur, sens molle.
Bonjour. Oui. On peut retracer rapidement pour me situer. Voilà. Une histoire tout à fait banale d'ailleurs, mais enfin... moi, je suis issu d'une bourgeoisie catholique, sociale, et toute mon enfance, donc dans les années 50, ont été... marqué par le rapport important à la religion catholique. Hein. J'étais servant de messe, j'étais scout, j'étais ceci, j'étais cela. Le principe de base, c'était le service. Voilà. On a été élevé dans cette idée qu'il faut servir.
L'attention aux autres.
Oui, l'attention aux autres, le service. Et on ne parle pas de soi, donc d'où la difficulté que j'ai à être ici, mais bon, on ne parle pas beaucoup de soi.
Oui, mais la joie de vivre aussi.
Et là ?
La joie de vivre, un certain épanouissement.
Oui, alors bon, c'est aussi ça, c'est le hasard de la vie, mais j'ai eu une enfance très heureuse, donc ça marque, bien entendu, puisque ça vous laisse une idée que le monde est... peut-être beau, peut-être
amélioré.
Oui, amélioré. Alors bon, ça c'est le deuxième élément, c'est qu'après, on est entré dans les années 70, dans les années du développement. D'abord, j'ai vécu avec ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, hein, baby boomer, comme on dit. Et les Trente Glorieuses nous donnaient une vision optimiste de l'évolution du monde, hein, par la technologie, bien sûr, ce qui est aujourd'hui complètement remis en question, mais on avait l'idée qu'on allait vers, alors certains vers le grand soir, d'autres vers l'accomplissement, vers, etc., mais que chaque acte de votre vie pouvait contribuer à améliorer effectivement le monde.
Le futur radieux avant la crise énergétique.
Oui, c'est ça, un peu, voilà, un peu les années 60. Les Trente Glorieuses, 50, 60, 70, voilà.
Et le Concile, parce qu'il faut aussi noter cette dimension. Oui, alors,
non, mais ça, c'est un autre point concernant la foi. Hein. On a été... on a vécu ce moment extraordinaire du Concile. Moi, j'avais 20 ans, ou presque, quoi. Enfin, pas tout à fait, mais... Si, j'avais 20 ans. À la fin du Concile, les années 70 ont été une période extraordinaire d'ouverture, voilà. D'ouverture de l'Église à beaucoup de choses. Et on pourrait éventuellement y revenir à la question de l'homme à travers la relation aux sciences sociales et aux sciences humaines. C'était nouveau. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne se rend pas. On a oublié ça. Mais,
Populorum progressio, c'est aussi un développement total.
Oui, il y avait derrière la question de développement que l'Église, à travers, par exemple, quelqu'un comme Vincent Cosmao, avait contribué à intégrer dans la réflexion catholique et chrétienne dans les mêmes années à peu près. Voilà. On se souciait de l'homme, voilà. Hein, on se souciait de l'homme. Et la question de Dieu, alors on pourra revenir aussi, était liée à la question de l'homme. Elles sont indissociables, en tout cas elles sont pour moi indissociables de la façon dont je vis ma foi.
Alors, géographie humaine ou géographie physique,
justement ? Oui, ben ça, on va pas entrer dans le détail, parce que ça, c'est des questions techniques liées à la géographie elle-même, qui pendant longtemps a été séparée d'un côté physique et d'un côté humaine. Et encore, quand on faisait une thèse de géophysique, il fallait faire une deuxième thèse de géo-humaine et vice-versa. Et puis, avec l'émergence donc, des sciences humaines, la géographie dite humaine, c'est plus orienté vers la sociologie, vers l'histoire. Bon, ça l'était toujours, au moins d'un point de vue administratif. La géographie humaine est entrée dans ce grand courant de réflexion des sciences sociales et des sciences humaines dans les années, je dirais, les années où j'ai commencé l'université, les années 70.
Pourquoi le choix de l'Amérique latine ?
Non, c'était d'abord le choix de l'Afrique. C'est un hasard, comme beaucoup de choses dans la vie. Je me suis retrouvé au Sénégal parce que j'avais une compétence technique qui était la cartographie. Et il y avait des chercheurs du CNRS qui avaient besoin d'un cartographe. Voilà. Et je me suis retrouvé à faire des cartes au Sénégal et puis à être coopérant et pouvoir y faire ma thèse sur le monde rural, justement.
Alors donc, vous avez vu certains spiritains qui ont aidé à construire la cathédrale de Saint-Louis et de Père Brottier
Non, je n'ai pas rencontré les spiritains. D'abord parce que j'étais chez les Dominicains. Donc, on avait un centre qui s'appelle Centre Lebray, donc du nom d'un célèbre Dominicain qui a contribué à élaborer le premier plan de développement du Sénégal, Père Lebray.
C'est le colonialisme alors ?
Non, ce n'était pas le colonialisme, c'était déjà les indépendances, le début des indépendances. Et ensuite, c'était un centre où essayait de se penser l'évolution du avenir de l'Afrique, plutôt contestataire, on va dire. C'était très lié à l'université, très lié à des enseignants qui étaient à l'époque des opposants au président Senghor, pour dire les choses très, très clairement.
Anta Diop, et, université, c'est ça, à Dakar.
Oui, c'était à l'époque, c'était pas encore l'université, cher Anta Diop, hein, grand historien du Sénégal. Mais il y avait là un lieu de débat, surtout. Voilà. Et je voudrais insister là-dessus parce que les années 70 ont été des périodes de débat. J'insiste là-dessus parce que ce débat, après, dans les années 80, dès l'arrivée de Jean-Paul II comme pape. Les débats ont été systématiquement évincés
d'une réflexion
de la sociologie, quoi, hein, de la réflexion, oui, de la réflexion générale. Si réflexion il y avait, on est revenu à des choses très antérieures, très liées à, enfin très, je veux dire très vite. Pour moi, c'est ce qui correspond à une contre-réforme par rapport au Concile, qui était une vraie réforme. Bon, la suite a été un gigantesque effort de contre-réforme où on nous a, enfin, dans lequel on s'est plus retrouvé et qui surtout a complètement anéanti quoi, le travail qui avait commencé dans les années 70. Alors souvent on entend dire « Oh, le Concile a fait ci », enfin il y a des tas de critiques. Mais attendez, c'est que la révolution était importante. Et bon, les choses ne se font pas en 3 minutes. Hein. On n'a pas eu le temps, justement. Moi, je cherche, bon, peut-être si j'ai un peu de temps dans les années à venir, j'écrirai quelque chose là-dessus, mais à défendre ces quelques années où les choses ont commencé à bouger dans l'Église et de façon pour moi, très positive, qui ne remettait absolument pas en compte, comme certains l'ont dit, notre foi en Dieu. Absolument pas. Simplement, elle s'exprimait avec une autre énergie, avec une autre orientation. Et cette orientation, c'était ce qui a été contesté, justement, et en particulier à travers les sciences humaines. Je parle là en tant qu'universitaire, bien sûr. La question centrale, c'était la question de l'homme. Voilà. Hein? C'était la question de l'homme, qui pour moi est indissociable de la question de Dieu, mais c'était la question de l'homme. Il fallait retravailler la question de l'homme. Et c'est ainsi que moi, j'ai pu avoir la chance de participer à des réflexions qui avaient lieu au couvent Sainte-Marie des Vœux, couvent dominicain, construit par Le Corbusier d'ailleurs, et où s'était créé un centre Thomas More, le centre de réflexion, justement, de confrontation de la théologie aux sciences humaines. Et là, on a pu commencer à redébattre, c'est-à-dire à sortir d'un discours qui était quand même très fermé sur lui-même, ou en tout cas très fermé sur une communauté catholique, on va dire, ou chrétienne, et qui tendait à s'ouvrir à d'autres populations, à d'autres façons de penser, qui déjà venaient bousculer complètement la façon dont on pouvait parler et de Dieu et de l'homme.
Alors, j'ai l'impression que nous ne sommes pas sur la même face, parce que dans votre approche religion et politique, je comprends tout à fait votre point de vue. Je me dirais peut-être qu'il est situé au niveau de l'Europe de l'Ouest et de l'Afrique francophone, mais en Europe de l'Est, c'est aussi l'Église qui a inversé le rapport politique, disons le stalinisme, et les protestants qui, avec leurs petites bougies, ont fait, entre autres, il y avait bien sûr la CIA et il y avait Jean-Paul II, mais Solidanoche d'un côté et les réformés, enfin, les protestants réformés, ont critiqué cette absence de vérité dans la presse, dans le discours. Alors, si on avait le temps d'aller en plus en Amérique latine ou en Asie, on verrait que ces relations entre religion et politique sont extrêmement complexes. On touche là à quelque chose qui est à la fois le particularisme et l'universel.
Oui, mais dans les années 70, qu'est-ce qu'il y avait en Amérique latine? C'était la théologie de la libération.
Oui, les frères Boff, les franciscains. Oui.
Or ça a été
étouffé aussi.
Il ne s'agit absolument pas de dire « Ah, oh, c'était le nec plus ultra hein? ». Mais ça a été complètement étouffé. Au nom de quoi? Comme vous le dites, hein, c'est au nom d'une approche qui était celle de Jean-Paul II, qui était celle de l'Europe de l'Est, effectivement. Le problème, c'est qu'on n'a pas donné, on a voulu faire une sorte d'universalisme, hein, et non pas de tenir compte de ce qui avait été engagé déjà par des gens de grande foi hein, et de grand courage. J'en ai connu, moi, hein, qui ont payé de leur vie même, hein, leur engagement. Et ça, ça a été complètement étouffé, oui, désaffecté. Ça n'avait plus de sens, ça a même été complètement, aujourd'hui c'est complètement effacé. Quand vous regardez l'histoire, ce que savent aujourd'hui les gens d'église, enfin, ou les jeunes, eh bien, cette période-là, elle n'existe pas. Et ça m'impressionne beaucoup, ça me touche personnellement, parce que c'est elle qui m'a constitué, qui a vraiment constitué ma foi. Elle n'existe pas. C'est pour ça que je veux, bon, simplement que je retravaille, ça demande du travail, mais je veux à un moment ou à un autre en rendre compte, hein, pour que, au moins, elle existe, elle continue à exister quelque part, et que d'autres qui cherchent aujourd'hui peut-être des voies qui sont proches de ce que nous avons vécu dans les années 70, puissent y trouver de l'inspiration. Mais rien n'était facile, voilà, c'est ça, rien n'était absolu. Ce qui m'a beaucoup meurtri, c'est que on a été accusé de tout déconstruire et de tout foutre en l'air, ce qui était absolument faux. Bien sûr qu'il fallait déconstruire, hein, d'ailleurs en géographie aussi, enfin dans toute science humaine, on commence par déconstruire, pour reconstruire, bien sûr, mais on ne peut pas reconstruire si on n'a pas un minimum, en tout cas, déconstruit. Mais déconstruire ne veut pas dire anéantir. Hein. Simplement, c'est remettre les éléments, en tout cas, qui constituent toujours le fond le fond éternel de ce que les gens peuvent croire, de leurs ambitions, de leur espérance, etc., mais de les remettre dans une configuration qui est une configuration, on va dire, contemporaine.
Voilà. On sent votre conviction, on sent votre fougue. Alors, je pense que nos auditeurs ont besoin peut-être d'un peu de calme, et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir apporté ce beau chant. Si belle la vie, c'est ça que Christophe
Gracias à la vida, merci à la vie qui m'a tant donné. Voilà, oui.
Et Christophe va nous faire écouter.
C'est déjà le principe de base, hein, de dire merci à la vie.
Gracias a la vie que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui avec M. Bernard Charlerie, vous êtes professeur de géographie, professeur émérite au LIST, l'UMR Dynamique Rurale à l'Université Jean Jaurès. Et vous venez de nous retracer, on a regardé dans le rétroviseur votre vie de foi, de conviction, jusqu'au moment des années 80. Il faudrait continuer actuellement votre question de cette interrogation par rapport au rôle de l'Église. Je devrais dire aux auditeurs que je vous suis reconnaissant de m'avoir invité à venir rejoindre ce labo du CNRS, alors que je travaillais plutôt au Centre d'analyse sociologique avec Alain Touraine et, pour le dire très vite, avec Placide Rambaud, qui travaillait sur les coopératives de l'Europe de l'Est, la Pologne, mais aussi les kibbutz et aussi la Roumanie. Donc, moi, ma question comme sociologue, c'est, vous l'avez dit, il y a une sorte d'universel que le chercheur incite à poser des questions. Et vous disiez, ah ben non, ce n'est pas les bonnes questions, ce n'est pas la bonne problématique. Mais je devrais dire, dans des temps anciens de la Première Alliance, il y avait ces figures, ces rôles, ces fonctions, prophètes, prêtres et rois, et puis le paysan. Et vous, vous êtes donc un chercheur. Alors, neutralité axiologique ou bien la distance par rapport à ses propres convictions, parce qu'il s'agit d'étudier le terrain. Et vous dites, eh bien, ça n'empêche pas qu'on ait des convictions. Et j'aimerais que vous reveniez sur le fameux discours de Dakar, où il était question de dire pourquoi il y a un drame en Afrique. Oh ben, c'est parce que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, nous disait un président de la République que je ne nommerai pas ici. Oui, il y a l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes. Mais tradition, modernité, bien, vous avez accompagné ces thèses en Amérique latine et en Afrique. Et moi, j'étais un peu choqué parfois de dire que ces jeunes chercheurs qui ont des responsabilités dans leur pays, passaient peut-être sous silence tout ce qui est la spiritualité ou ce que j'appelais le métaphysique. Vous n'aimez pas que je mette ce mot-là. Mais pour moi, sociologue et l'anthropologue, c'est Dieu qui fait tomber la pluie, vrai ou faux. Et les engrais, eh ben, c'est une forme de magie qui fait qu'on va empoisonner le sol. Alors, bon, je sais que vous avez répondu, vous avez écrit. On ne va pas faire d'histoire avec le président de la République, ce fameux discours de Dakar, mais vous avez pointé les incohérences d'un discours libéral, et même plus que libéral, qui est un discours absurde.
Il y a beaucoup de choses hein, dans la question. Alors, je voudrais revenir d'abord sur, les étudiants. En tant que géographe ou historien, sociologue, etc., l'important déjà, c'est d'avoir appliqué de la méthode. Sinon, on fait n'importe quoi. Hein. Donc, on se soumet aux règles de la méthode, des méthodes qui sont appliquées, etc., quitte à les améliorer, les renforcer, etc. Mais il y a une première exigence qui est, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord rendre compte d'une certaine réalité. Cette réalité, elle est complexe. Donc, il faut pouvoir entrer là-dedans sans, dès le départ, mettre un filtre qui serait celui de vos convictions personnelles. Cependant, on ne peut pas non plus faire ce type de travail de façon anodine. J'ai connu des étudiants qui m'ont dit « Oh ben, vous voulez que je travaille là-dessus, mais vous savez, je peux très bien travailler là-dessus, ou encore là-dessus, ou encore là-dessus. » Je dis « Non, qu'est-ce qui vous importe ? Qu'est-ce qui vous importe ?» Donc, il y a bien derrière une intention. Cette intention, elle revient à la fin du travail. Hein, où là, quand on dit dans un travail universitaire, vous avez, mettons, une grande conclusion. Dans cette conclusion-là, alors vous reprenez les éléments objectifs, le plus objectif possible de l'analyse que vous avez faite d'une situation, pour les replacer alors dans une perspective. Et cette perspective, bien entendu, elle porte votre propre perspective ou votre propre conception du monde.
Vos hypothèses.
Donc, il faut qu'il y ait effectivement, que ça vous prenne aux tripes. J'ai souvent dit aux étudiants, le travail intellectuel, il ne se fait pas dans la tête, il se fait là, hein, dans les tripes. Voilà, c'est une façon très, très vulgaire de dire ça, mais c'est très important, parce que il faut qu'il y ait derrière une certaine énergie. Alors, vous parlez de métaphysique. Non, les géographes ne sont pas... Ce n'est pas leur boulot de faire de la métaphysique. Hein, la métaphysique, elle... Traditionnellement, elle était le fruit de la philosophie et de la théologie, hein, une espèce de rencontre entre la philosophie de l'être, d'ailleurs, et la théologie. On ne va pas demander à des géographes de faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que derrière, ils n'ont pas, dans leur perspective, dans leur façon de réaliser ce travail, qui est quand même un travail académique souvent, hein, bon, et avec ses limites. Mais après, dans leur vie professionnelle, moi, je ne sais pas comment ils le font, mais comment après, dans leur vie professionnelle, ils reprennent ça et lui donnent alors une dimension plus, peut-être plus universelle, en tout cas, ou plus ontologique.
Hein. Ouverte à la spiritualité.
Ça, c'est leur...
Pour
oui,
certains.
Pourquoi pas ouverte à la spiritualité ? Nous, on a baigné là-dedans, mais il y a des gens qui n'ont pas baigné dans la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvert à la spiritualité ?
Ben, c'est le psaume que vous nous avez apporté pour terminer notre entretien, parce que malheureusement, le temps est déjà compté, et Christophe me fait de grands signes derrière la vitre. Je devrais dire aussi que vous êtes la dernière... émission, le dernier dialogue des 200 personnes qui sont venues dans le courant des cinq saisons, ma foi, j'y crois. Donc, l'année prochaine, il y aura une autre manière de parler de la foi, des relations, religion et politique. Et pour conclure, vous, quand même, le mot de la fin, ben, nous le laissons à cette sagesse universelle de ceux qui, non seulement veulent transformer la Terre, qui veulent faire de la géographie ou de la sociologie, mais aussi qui s'ouvrent à cette dimension dont parle le psaume que vous nous lisez maintenant pour conclure.
Et qui est le psaume 19, ou le début du psaume 19. Hein, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Jusqu'aux limites du monde.
Merci, voilà. Bernard. Et chacun, je crois, prendra à son compte cette ouverture sur ce mystère, mais ce qui ne nous empêche pas de construire la terre d'une autre manière et de la rendre plus juste.
Nous, on fait notre travail, hein, qui est un travail très terre-à-terre, surtout pour les géographes. Mais bon, il y a toujours quelque chose de plus grand que ce que nous faisons. Voilà. C'est ça qui témoigne de la foi. Hein. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que nous faisons. Mais nous faisons ce que nous devons faire. Voilà.
L'homme dépasse infiniment l'homme. Merci Bernard. Merci Christophe.